chronique Onimiki, première de la série aujourd'hui. Et avec nous, au bout du fil, nous avons le président d'énergie renouvelable Onimiki, M. David McLaren. Bonjour, M. McLaren.
Oui, bonjour, M. Maillé.
D'abord et avant tout, il y a des gens au Témiscamingue qui ont entendu le mot projet Onimiki, qui ont entendu énergie renouvelable Onimiki, qui ont entendu deux centrales hydroélectriques à faire ici au Témiscamingue. Il y en a qui sont un peu plus informés, il y en a qui le sont un peu moins, il y en a qui le sont pas du tout. Décrivez-nous brièvement, pour le bénéfice de nos éditeurs, en quoi consiste le projet Onimiki?
Donc, le projet de deux centrales hydroélectriques totalisant 67 mégawatts. Nous avons Onimiki Nord, qui est à 15 kilomètres au sud de Laniel, et Onimiki Sud, dans la ville de Témiscamingue, à l'ancienne centrale hydroélectrique. On utiliserait les forces hydrauliques du lac Kipawa pour produire justement de l'énergie, ce qui permettra de générer des nouvelles sources de revenus pour les partenaires pour des générations futures. Donc, on s'entend que c'est un projet 100% communautaire, donc 100% public, développé par des partenaires du milieu. Ces partenaires-là, c'est Kebowek First Nation, Wolf Lake First Nation, la MRC de Témiscamingue, ainsi que la Première Nation des Inuits au lac Saint-Jean, en raison de son expertise dans les projets d'énergie communautaire qu'elle a développés.
C'est la première d'une série de chroniques qu'on va entendre sur les ondes de CKVM aux deux semaines. De quoi va-t-on parler dans cette série de chroniques?
Bon, c'est important pour nous de partager le plus d'informations possible à propos du projet. Donc, pour que les gens comprennent le projet, les raisons pour lesquelles nous voulons développer ce projet. C'est un projet qui aura des impacts, comme tout projet de développement, on s'entend là-dessus. Donc, c'est important de connaître ces impacts, de pouvoir proposer des mesures de mitigation. Et aussi, c'est un projet qui doit suivre un processus réglementaire et qui sont très rigoureuses. Donc, on pourrait aussi parler des impacts positifs pour le milieu, des revenus importants pour les partenaires, d'importantes retombées économiques pendant la construction, mais aussi pour réaliser des projets à long terme. Enfin, on compte fermement qu'il est possible de développer un projet qui profitera à l'ensemble des Premières Nations et du Témiscamingue, un projet qui s'insérera bien dans l'environnement d'accueil, et c'est que nous voulons mettre de l'avant dans cette série de chroniques.
Vous avez annoncé récemment une modification de l'échéancier du dépôt de l'étude d'impact environnemental. Le dépôt est maintenant prévu au milieu de l'année 2026. Expliquez-nous quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision-là.
Bien, nous avons toujours été clair que nous allons prendre le temps nécessaire pour réaliser chacune des étapes, notamment les nombreuses études environnementales et la démarche d'information et de consultation. Depuis trois ans maintenant, il y a eu plusieurs visites sur le terrain par les experts en environnement pour récolter les données, une douzaine de rencontres publiques et une trentaine de rencontres ciblées pour écouter les gens et les organisations. Donc, à la lumière des études faites jusqu'à présent et des échanges que nous avons eus avec le milieu, nous avons jugé qu'il est important de récolter des données additionnelles sur le terrain pour documenter certains aspects. Fait qu'il y aura encore beaucoup de consultations à faire. Il y a des rencontres d'information et des consultations additionnelles qu'on doit faire dans les mois à venir. Et il y a le processus qui est rigoureux et important à suivre. Ça fait en sorte que le dépôt d'études d'impact va être maintenant prévu vers la mi-2026.
Si les gens veulent en savoir un peu plus, M. McLaren, en attendant, en se disant, bon, ben écoute, j'en entends parler, je ne sais pas trop où me lancer pour obtenir de l'information, est-ce qu'il faut que je parle à quelqu'un, est-ce que j'ai de la lecture à faire, etc. Comment les gens peuvent s'informer à propos du projet?
Bien, on va commencer évidemment avec nous lors de nos chroniques à CKVM. On s'entend là-dessus, c'est une belle façon de communiquer avec les gens du territoire. Nous avons aussi plusieurs outils de communication tels que notre site web onimiki.ca. Il est très à jour, il y a beaucoup d'informations là-dessus sur toutes les rencontres. On a une page Facebook aussi là qu'on gère. Et aussi, on peut s'abonner à l'infolettre. C'est vraiment un excellent moyen de ne rien manquer. Par courriel aussi, sur le site, on répond à toutes les questions. Donc, si les gens veulent communiquer de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Puis, on aura aussi des nouvelles assemblées d'informations, de consultations prévues au cours des prochains mois.
Donc, on a vraiment tout prévu pour s'assurer d'être transparent et surtout d'offrir le maximum d'informations pour que les gens sachent à quoi s'en tenir avec ce projet Onimiki.
Effectivement, c'est notre but, de partager le plus d'informations possible.
Merci beaucoup, M. McLaren. C'est gentil d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Et bien évidemment, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines pour pouvoir poursuivre ces chroniques Onimiki sur les ondes de CKVM.
Merci à vous.
Merci, au revoir.